Je suis, comment dire, le professionnel de l'étape dans le domaine du funéraire et surtout un étonné passionné par les mutations qu'il y a actuellement dans le rapport de la société à la mort, qui se traduit notamment par des modifications extrêmement importantes des rituels funéraires, parfois par l'absence de rituels funéraires. Alors vous pourrez vous dire, bon, c'est Paris, devant un certain nombre de faits dont je vais vous faire part, c'est Paris, c'est particulier, etc. Tous les chiffres que je vais vous donner, sauf quand je le préciserai, s'entendent au niveau national. Hein, donc c'est bien un phénomène national dont on va parler. Et effectivement, il y a des phénomènes qui sont un peu accentués dans les grandes villes, dans les métropoles, mais on s'aperçoit que ce sont des phénomènes qui diffusent partout dans la société. Donc ceux qui accourent actuellement dans ces grandes métropoles risquent d'advenir dans des zones dans des plus petites villes, même dans des zones rurales. Je ne suis pas du tout éloigné des zones rurales. Moi, je suis un Jurassien de la montagne du Jura, dans un petit village de 300 habitants. Je sais, avec un village, avec un cimetière autour du village où tous mes ancêtres sont enterrés. Donc, je sais ce que c'est également que la campagne. Donc, un avertissement. Il est toujours extrêmement difficile de parler du sujet de la mort parce que tout le monde, mais y compris de temps en temps des esprits scientifiques, reporte le sujet sur ses propres expériences, ses propres vécus, qui sont extrêmement émotionnels. Donc, essayez de faire attention, de faire l'exercice de temps en temps. S'il y a des choses qui vous choquent un peu, dites-vous, mais c'est peut-être moi. Donc j'ai juste, même si je suis un amateur dans les sciences sociales, mais je vais vous donner quelques petits éléments sociologiques de cadrage. Parler de l'inhumation-crémation, un bouleversement de la temporalité des obsèques, la question du contexte religieux et des cérémonies civiles, on en avait parlé par ailleurs, et puis juste une petite ouverture sur ce qu'on pourrait dire des fonctions du cimetière moderne tel qu'on peut le voir évoluer. Alors, je ne vais pas du tout. Souvent, je parle du tabou de la question du tabou de la mort parce que c'est un vrai problème actuellement. Le politique ne parle jamais de la mort, et c'est le reflet c'est le reflet de l'ensemble de la société d'ailleurs. Hein, on fuit la mort et il y a un véritable tabou. Mais ça serait un autre sujet. J'ai passé sur un certain nombre de bouleversements démographiques qui vont expliquer aussi les bouleversements qu'on a dans les pratiques. C'est un lieu commun de dire que l'espérance de vie augmente énormément. Chaque année, depuis 70 ans, chaque année, on a gagné un quart d'année d'espérance de vie. L'espérance de vie qui maintenant s'élève à plus de 85 ans pour les femmes, presque 80 ans pour les hommes. Et on a une progression qui est vraiment continue. Ça ne veut pas dire que ce soit une espérance de vie en bonne santé, laquelle évolue beaucoup plus lentement. La mortalité infantile a été quasiment éradiqué en un siècle. On avait 30% de décès d'enfants avant 1 an, 15% encore au début du XXe siècle. Et rappelez-vous la canicule de 2003. Hein, eh bien, en 1911, il y a eu 20 000 morts d'enfants de moins d'un an. Imaginez qu'en 2003, il y a eu 10 enfants qui soient morts, le gouvernement tombé. La vie était indissolublement liée à la mort, hein, puisqu'il y avait beaucoup de morts pendant les accouchements. En 1950, on était déjà passé à 5%, et en 2011, la mort périnatale a complètement disparu du paysage. C'est quelque chose qui est extrêmement rare, mais c'est d'autant plus difficile à gérer pour les parents, essentiellement les femmes, parce que justement ce n'est pas reconnu comme un phénomène social, qu'on n'a pas le droit d'en parler. Que c'est morbide de parler de la mort, hein, particulièrement de ça, et qu'il n'y a pas de. Et donc, ne vous étonnez pas aussi dans les cimetières qu'il y ait des demandes, par exemple, de rites funéraires, des demandes d'inhumation d'enfants décédés très, très tôt. Hein. La mort a également changé de nature. En 1925, on avait deux fois plus de décès dus à des maladies infectieuses qu'à des cancers. Hein, mais la maladie infectieuse, c'était quelque chose qui touchait tout le monde. Hein, et puis, donc, c'était une cause de la mort qui était familière. D'un seul coup, en 2000, on a plus 40 fois plus de décès dus à des cancers qu'à des maladies infectieuses, grâce à la vaccination. Avec la vieillesse, on a la prévalence des maladies dégénératives, hein, les Alzheimer, démence sénile, etc. La brutalité et l'individualité des morts subites dues à des causes cardiovasculaires. Bref, on est passé d'une mort qui était souvent à cause de maladies infectieuses, qui était un peu familière, etc., à des causes qui sont essentiellement individuelles et qui font peur quelque part. Du coup, ça nous amène, et on observe ça de façon extrêmement forte en tant que professionnel du funéraire, ça nous amène à considérer qu'il n'y a pas le deuil, mais il y a énormément de cas extrêmement différents dans le deuil. Il y a la mort des personnes très âgées, hein, quand une personne de 70 ans inhume son parent centenaire, eh bien, la personne de 70 ans est déjà rentrée dans la vieillesse, elle a déjà pensé à sa propre mort, donc elle n'a absolument pas le même rapport à la mort de l'autre qu'elle aurait pu avoir 20 ans plus tôt. On a la question de la mort sociale avant la mort physique. De plus en plus, je disais, l'espérance de vie en bonne santé ne va pas du tout à la même vitesse que l'espérance de vie. Donc on a de plus en plus de gens qui sont pendant longtemps désocialisés à cause de maladies dégénératives, etc. Donc là, le lien social s'est complètement rompu depuis des années. Et quand la mort physique advient, eh bien, c'est la fin d'une époque, il y a un peu de nostalgie, mais il n'y a plus de peine, souvent. Il y a les personnes qui décèdent à la suite d'un séjour en soins palliatifs, ces lieux extraordinaires où l'hôpital s'humanise, où on n'a plus une maladie mais on a un patient, où on n'a pas seulement un patient mais on a son entourage. Donc là, il y a une préparation de ce qui va advenir. Souvent, par exemple, on incite l'entourage des personnes qui vont décéder dans un centre de soins palliatifs à aller faire des devis avant la mort. Et donc, quand ils organisent des obsèques, les choses se passent de façon complètement différente. À l'inverse, quand un jeune senior de 55 ans meurt en jouant au tennis, ça devient extrêmement brutal, il y a les morts contre l'ordre des choses, quand les parents s'occupent des obsèques de leurs enfants, et avec l'allongement de la durée de vie, c'est de plus en plus fréquent également. Et puis, il y a la mort périnatale dont je venais de parler tout à l'heure, qui est un drame sans nom, d'autant plus que les projets de maternité ne sont pas du tout les mêmes. Une femme ne tombe plus enceinte, c'est un projet d'enfant beaucoup plus tard, etc. Et donc, si ce projet n'aboutit pas, si l'enfant décède dans le ventre de sa mère, etc., c'est une catastrophe. Voilà. Donc, il y a ces vrais bouleversements démographiques qui existent. Il y a le phénomène de la crémation qui arrive. Et le phénomène de la crémation, c'est pas uniquement un changement de mode de sépulture, c'est un véritable bouleversement rituel. Alors, pour reparler, je vais redonner quand même quelques chiffres sur l'évolution de la crémation, d'autant qu'il y a des personnes qui sont là ce soir qui n'étaient pas là cet après-midi. Hein, il y a une génération, en gros, la crémation, c'était une pratique militante réservée à des laïcs et francs-maçons. C'était les associations crématistes, c'était ça. Et puis, ça s'est développé à une vitesse extrêmement importante. Et maintenant, c'est plus du tiers de la population. Donc, c'est la pratique de tout un chacun. Pour autant, quand on a à faire face à la mort d'un proche, on a besoin de se rattacher à des racines, à des repères culturels, etc. Or, on n'a pas de repères culturels. En une génération, on n'a pas de repères culturels autour de la crémation. Tous les livres qu'on a lus, les films qu'on a vus, les histoires familiales, etc., sont autour de l'inhumation. On a un vocabulaire, on a plein de choses. Et personne va reposer dans sa dernière demeure, etc. Donc pour la crémation, un petit pot de cendre, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous avait fait. On parlait des mots cet après-midi pour parler de la crémation, et on a financé dans le cadre de notre fondation des petits livrets qui permettent de parler de la crémation aux enfants, parce que c'est absolument tragique. Aller dans un crématorium, vous ne voyez jamais d'enfants. Et le diagnostic que l'on avait fait, notamment, c'était que les parents étaient incapables d'expliquer à leurs enfants ce qui allait se passer dans le crématorium. Et donc, on prive les enfants d'obsèques. Alors que c'est leur rendre service que de les accompagner, hein, de leur permettre d'accompagner, etc. Tout simplement, sans doute, pour des problèmes de vocabulaire. Alors, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a une évolution de la crémation qui est extrêmement rapide, qui a été extrêmement rapide partout en Europe, hein, plus dans les pays du Nord protestants. Avec des pointes, hein, donc la Suisse, 87% maintenant. Hein. La Grande-Bretagne, c'est 75%, mais 90% dans le Grand Londres. Copenhague, le Danemark, 81%. Et si vous voyez des pays comme la Suède à 48%, c'est tout simplement parce que ils ont des étendues, ils ont une très faible densité sur toute une partie de leur territoire, et les crématoriums sont trop loin. Enfin, c'est pas facile d'avoir ces équipements. Mais autrement, dans les grandes villes, il y a des taux qui sont extrêmement importants. Et si on interroge, on fait des sondages régulièrement avec Ipsos, et quand on pose la question aux gens de savoir ce qu'ils voudraient pour leurs propres obsèques, eh bien, majoritairement, ils souhaitent la crémation. Et alors, ça peut paraître paradoxal, mais le souhait de crémation est d'autant plus important que les gens sont plus âgés. Hein? Et c'est aussi intéressant. Chez les jeunes, on a vu une diminution de la demande de crémation, et qu'on explique largement, quand on regarde les tris sociologiques, par l'appartenance religieuse. Les pratiquants, enfin les croyants et pratiquants, en général, se retournent plutôt vers l'inhumation, notamment, enfin, naturellement chez les populations juives, musulmanes, mais ça c'est connu, mais également chez les catholiques. Les catholiques pratiquants se recentrent sur la crémation. Il y a un phénomène sur l'inhumation. Voilà. On observe d'ailleurs, en tant que professionnel du funéraire, la création de plus en plus importante d'entreprises funéraires confessionnelles. Donc il y a des entreprises juives depuis très longtemps, des entreprises musulmanes maintenant, il y en a un peu partout. Et il y a les catholiques qui ont monté également leur système confessionnel à Paris, à Lyon, à Versailles, à Marseille, à Toulouse, Bordeaux. Enfin bref, ils créent des entreprises confessionnelles. Comme quoi, c'est un enjeu culturel, hein, enfin, c'est un enjeu fort, hein, le rapport à la mort. Et donc, pourquoi je disais que la crémation, c'est un bouleversement? On a tous en tête, culturellement, le schéma des obsèques sont les obsèques chrétiennes. Hein, donc, on meurt chez soi, entouré par ses proches, on est veillé, on se rend en convoi au centre de la cité, souvent à l'église, qui est au centre du village. Là, il y a un bâtiment qui est fait pour, un officiant qui sait ce qu'il faut faire, et il se déroule une cérémonie qui a du sens pour ceux qui sont croyants et qui au moins rattache à une tradition pour les autres. Et puis après, il y a le cimetière qui est un lieu qui est fait pour les morts, dont on a parlé. Avec la crémation. Alors, maintenant, 75% des personnes meurent dans des structures médicalisées, 85% des décès se produisent hors du domicile. Et ce qui a fait dire à Philippe Ariès, je trouve qu'on fait le parallèle entre la naissance et la mort. Un enfant d'aujourd'hui n'a jamais vu ni naître ni mourir. Il a vu quelqu'un partir à l'hôpital et n'en jamais revenir, le mort, ou revenir avec un vivant de plus, le petit bébé qui vient de naître. Et nouveauté également, on meurt extrêmement souvent à la suite d'une décision médicale. Il y a une étude, c'est une publication Population et Société de 2012, qui montre que dans près de 48%, dans 48% des décès, le médecin déclare avoir pris une décision médicale en ayant conscience qu'elle était susceptible d'abréger la vie du patient. Donc, loi Leonetti et bis, hein, donc soulager la douleur au risque de précipiter la mort, mais abstention de gestes, abstention d'opération, etc. Donc, on est passé quelque part de l'attente de la mort, qui la volonté d'ailleurs, à la décision de laisser mourir. Et l'entourage est souvent associé à ces décisions. Donc ça, c'est ce qui se passe en amont. Donc la veillée, l'on meurt chez soi, entouré par ses proches, hein, le laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, c'est à peu près fini. On observe une disparition de la pompe funèbre. Les convois sont même interdits à Paris. Ça gêne la circulation. On voit de plus en plus dans les crématoriums deux personnes pour toute assistance, la veuve, le fils. On a les personnes seules à Paris, 240 personnes chaque année décèdent sans que personne ne s'occupe des obsèques. Et effectivement, ils sont accompagnés par le collectif des morts de la rue, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Sur ces 240 personnes, il doit y avoir 40 SDF. Tous les autres sont des personnes qui sont complètement isolées. Et je me rappelle avoir organisé la cérémonie à la suite de la canicule de 2003, auquel participait le président de la République. C'est moi qui ai lu les noms des personnes qui étaient qu'on enterrait ce jour-là. Il y avait par exemple trois personnes qui étaient issues de familles aristocratiques, avec des familles à particules. Voilà. Et il y avait une personne là-dedans qui avait un appartement de 180 mètres carrés, boulevard Saint-Charles. Voilà. Et on se trouve aussi très souvent avec le direct hôpital-cimetière, qu'on trouve de plus en plus dans les villes et dans les métropoles. On part de la chambre mortuaire de l'hôpital. Pas de cérémonie, vous voulez ni fleurs ni couronne, rien du tout. On se retrouve là, au cimetière. Là, il y a quatre fossoyeurs pressés qui mettent la boîte dans le trou. Rideau. C'est assez sidérant pour les gens qui participent à ça. Les passages par les lieux de culte se raréfient. Et si je prends l'exemple de Paris, actuellement, dans les obsèques qu'on organise, et on en organise 3 500 par an, hein, donc c'est pas le, on dans 69% des cas, on ne passe pas par un lieu de culte. Donc il n'y a pas d'église, il n'y a pas de le... on meurt plus chez soi, on n'est plus veillé, on n'a plus de convoi. Dans 2/3 des cas, dans cet exemple de Paris, on ne passe plus par un lieu de culte, qui est quand même le repère, hein, dans le... Et puis ensuite, avant, il y avait le cimetière qui était un repère. Et je montrais, même les crématistes, au début, avaient des petites tombes dans lesquelles on mettait les calcins, hein, qui étaient les ossements, qui étaient dans des sortes de boîtes qui ressemblaient à des petits cercueils qu'on mettait là-dedans. Et puis, le cimetière, c'était important parce que c'était un lieu qui était le lieu repère pour le deuil. C'est un lieu public, ouvert à tous. C'est un lieu qui est réservé aux morts, c'est-à-dire que quand on passe le mur qu'il y a obligatoirement autour d'un cimetière, on sait qu'on va dans le domaine des morts. Et pour bien montrer la séparation des morts et des vivants, on met une grosse pierre sur le défunt, la pierre tombale, pour que la veuve qui va pleurer son mari puis qui dialogue avec lui sache bien que c'est un subterfuge, et que le mort est mort, il est dans le lieu des morts, il est sous terre, etc. Pas forcément la même chose avec la crémation. Puisqu'avec la crémation, ce qui était un défunt devient un petit pot de cendre en 1 heure et demie, et un petit pot de cendre qui n'a plus rien à voir avec l'humain qu'il y avait auparavant. 96% de l'humain qu'il y avait avant est parti dans les fumées. Un petit pot de cendre, ça représente 4%. Et avec l'invention de nouvelles pratiques mémorielles, dont certaines sont, et donc avec des columbariums, tiens, juste pour les cimetières. Rien ne dit qu'un columbarium, ça doit être fermé par une plaque opaque. On peut aussi avoir des petites grilles sur lesquelles les gens peuvent venir poser un pot de yaourt avec une petite fleur, les enfants allumer une bougie, etc. Donc réfléchissez quand vous faites un columbarium. Il y a les cavures, les dispersions en mer. C'est pas simple la dispersion que je parlais d'une personne qui meurt jeune à 50 ans. Elle avait dit bon, moi si je meurs, je veux qu'on me brûle, qu'on disperse mes cendres, etc. Je sais pas comment les enfants se baignent facilement dans la mer qui abrite les cendres du père ou de la mère. Hein. Des choses qui sont un peu compliquées. Il y a des choses qui sont plus ou moins bien dans les espaces de dispersion. Je suis désolé, mais je suis un peu choqué par l'idée du puits du souvenir. La réglementation dit, la législation dit que c'est une dispersion des cendres. Une dispersion, c'est pas vider le petit pot avec les cendres les unes sur les autres, dans ce qui n'est souvent qu'un regard d'égout, parce que c'est Bona qui fait ça. Hein, donc exactement les mêmes choses qu'un regard d'égout. Donc voilà. Je rappelle qu'on doit aux défunts, depuis la loi du 19 décembre 2008, respect, dignité et décence, que ça a été appliqué dans un certain nombre d'autres domaines, et qu'un jour ou l'autre, on pourra se poser les questions de savoir si c'est du respect et de la décence. Il y a la question de l'urne à la maison, qui, même si elle est théoriquement interdite, il y a toujours des gens qui le font. Et il y a même, après, des destinations qui sont farfelues, qui peuvent être la dispersion dans l'espace, etc., ou le changement d'état. Puisqu'il y a deux entreprises suisses qui proposent d'extraire le carbone qu'il y a dans les cendres de crémation pour les compresser et en faire des diamants. Donc la bru se balade avec belle maman au doigt. Voilà. Donc on peut. Alors tout ça, la majorité. La majorité des cendres sont encore actuellement dans des sépultures. Elles sont la majorité, encore juste une petite majorité inhumée, mais on a un peu, enfin on en a beaucoup de choses. En tout cas, le repère que constituait le cimetière avec la pierre tombale, etc., complètement explosé. Et donc c'est pour ça que je dis que on a beaucoup changé. Oui, donc je disais, on peut toujours amener l'urne à la maison. Et donc si je résume quelque part, je veux dire, alors pourquoi est-ce que les gens choisissent la crémation? J'en parlais cet après-midi, mais les deux principales raisons, hein, vous le voyez ici, c'est, enfin, première raison, c'est pour ne pas embarrasser la famille, et à 26%, pour des raisons écologiques. Je veux dire, alors que l'image d'un crématorium avec éventuellement des fumées, etc., ça n'a rien d'écologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ne pas embarrasser la planète. Et donc, 34 plus 26, ça fait quand même 60. À 60%, les gens qui choisissent la crémation le choisissent pour ne pas être une charge. Et 70% de ceux qui choisissent la crémation voudraient être dispersés. Ça n'est pas la réalité, on l'a vu. Hein, puisque ça n'est que dans 33% des cas qu'on a une dispersion. Mais les gens qui se projettent en choisissant la crémation, ils veulent être néantisés, transformés en cendres pulvérulentes, dispersés, ne plus exister. Et globalement, si on résume, actuellement, ce qu'on peut essayer de voir, c'est l'inhumation, c'est l'inscription dans une tradition, notamment religieuse, souvent forte. C'est des repères, des traces gardées. Une lenteur du processus, puisque le temps qu'il faut pour parvenir au même résultat que la crémation, c'est au minimum 5 ans. Hein, et puis, bah, autour, il y a un imaginaire qui est très fort dans notre civilisation, enfin dans notre encore en France, hein, puisque je veux dire, on a un langage, on a de l'art dans les cimetières, on a des belles choses, etc. La crémation. Ben, c'est clairement ne pas embarrasser, c'est la question, une question de la modernité, hein, la question autour du corps, effectivement. C'est l'absence de repères, parfois de traces, c'est le raccourcissement du temps, et c'est aussi un imaginaire. Alors, il n'y a pas un procédé qui est meilleur que l'autre. Hein. Si, d'ailleurs, on interroge les professionnels du funéraire sur ce qu'ils souhaitent, 95% ils souhaitent la crémation. Tous ceux qui ont vu ce que c'est qu'une exhumation souhaitent une crémation. Alors, la crémation, effectivement, c'est brûler dans un four à 850 degrés, ça va à toute vitesse, il y a des ronflements dans les parties techniques, on entend le bruit, oui. Mais l'inhumation, pour ceux qui savent ce que c'est aussi pourrir sous deux tonnes de terre. Donc, on peut avoir un imaginaire, il n'y a pas un procédé qui est meilleur que l'autre, c'est uniquement une question culturelle. Il n'empêche qu'on n'a pas encore apprivoisé tout ça. Troisièmement, la question de la temporalité. Et là, on va arriver à une question qui est importante, qui n'a pas été abordée cet après-midi, que j'ai pas entendue, je le disais. Or, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel, c'est pour qui les obsèques? Et là, on revient à l'avertissement que je mettais au départ. Je pense que chaque fois que je parle, enfin de tout ce dont je viens de parler, vous êtes projeté dans vous-même, dans vos propres obsèques, dans ce que vous alliez devenir. Surtout pas dans les autres, hein, parce que c'est tabou, hein, de penser à la mort d'un proche. Donc, on projette sur soi-même. Et du coup, on exprime des dernières volontés. Mais ça rime à quoi que d'exprimer des dernières volontés quand on ne sera plus là, alors que les obsèques sont faites pour soulager les vivants? Je suis un peu provocateur, mais on va y arriver. Et les dernières volontés en France, c'est pas rien, parce que la loi, effectivement, de 1887, c'est une loi qui a été votée dans un moment de crispation très très important entre l'Église catholique et les républicains laïcards du Grand Orient. Ouais, c'était à peu près ça. Et donc la loi dit que, donc tout majeur, on l'a vu, tout majeur ou mineur émancipé en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner, et le mode de sépulture. Donc, civil ou religieux, le mode de sépulture, c'est deux modes de sépulture qui sont autorisés en France actuellement, la crémation ou l'inhumation. La cryogénisation, par exemple, c'est interdit. Donc, ce choix-là, dit le Code civil, c'est le choix du défunt, obligatoirement. C'est le dispositif qui est fixé. Et témoin des crispations qu'il y a eu au moment du vote de la loi de 87, Ça, comment dire, c'est l'article du code civil, c'est assorti d'un article du code pénal qui a prévu des peines. Dire, toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté aux décisions dont elle a eu connaissance, sera punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 d'euros d'amende. Pas rien hein, dans le droit. Hein, c'est le. Alors, et les Français, il y a d'ailleurs, puisqu'on avait posé une question qui était un peu provocatrice, on leur disait, mais si une personne décide de son vivant de souscrire un contrat de prévoyance obsèques, par exemple, c'est une vraie question, prévoyant des clauses qui heurtent ses proches, comme par exemple l'interdiction d'obsèques religieuses ou volonté de ne pas être inhumé dans la sépulture familiale, ou etc., qu'est-ce qu'on doit faire? Respecter les volontés du défunt à plus de 90%. C'est absolument pas ce que font les Français. Et donc, on a une vraie tension entre les volontés du défunt et ce qui se passe dans la réalité, et les besoins des proches. Et alors, d'ailleurs, c'est assez amusant, mais la crémation est genrée. Si on regarde les statistiques qu'on a faites, et dans tous les crématoriums de France, on a exactement le même type de statistiques, hein, etc. Il y a beaucoup plus de crémations d'hommes que de femmes. Alors que, quand on l'a vu avec, on a fait les tri avec Ipsos pour savoir, il y a exactement le même nombre de femmes que d'hommes qui voudraient la crémation pour ces obsèques. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Hein, mesdames, vous nous mettez au feu assez facilement. Et assez représentatif, naturellement, quand il s'agit d'un enfant, là, ils ne sont pas capables d'exprimer, ils sont mineurs, donc ils ne peuvent pas exprimer de volonté. Et donc ce sont les parents qui choisissent à leur place, qui se portent. Et là, on s'aperçoit que, et c'est là où on s'aperçoit très fort que symboliquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore admis, etc. Quand il s'agit d'un enfant, la crémation est choisie dans moins d'un quart des cas. Donc l'imaginaire joue beaucoup. Les dernières volontés, c'est pas rien parce que quand il y a des dernières volontés qui sont exprimées et qu'il y a un mandataire, c'est le mandataire qui est responsable. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Tout le monde va commencer, alors ceux qui sont un peu plus jeunes attendaient 50, 55 ans, mais à partir de ce moment-là, dans les boîtes aux lettres, sur le terrain, vous allez recevoir des publicités pour les contrats d'obsèques. Où vous allez voir en général papy avec sa petite fille. C'est souvent ça saute une génération, hein. C'était comme ça dans l'iconographie. Et on va dire, ben il faut penser à vos pauvres petits-enfants quand vous mourrez et surtout les décharger de tous les problèmes, etc. Souscrivez un contrat d'obsèques. C'est être responsable. Et on a un développement extraordinaire des contrats d'obsèques qui se produit actuellement. C'est la même chose que la crémation. Et actuellement, on a plus de 20% des obsèques qui se déroulent avec des personnes qui avaient déjà souscrit un contrat. Pour une partie, ce sont des contrats essentiellement financiers, mais il y a toute une partie dans laquelle les dernières volontés sont très fortement exprimées. Et alors, naturellement, la publicité ne met en avant que la partie altruiste de la chose, décharger ses proches. Il n'empêche que, on le voit tout le temps, il y a aussi la volonté parfois des gens d'exister par-delà la mort, y compris en continuant d'embêter leur entourage. Je pense à un contrat qu'on a notamment chez nous, qui a été souscrit chez nous par une dame, qui a tout prévu jusque dans le moindre détail, les textes, etc., ce qu'on allait raconter sur elle, et qui a même commandé, c'est partie de la commande, un cœur en rose avec un bandeau à ma maman. Je ne sais pas. Si les enfants verront ça comme un cadeau que leur a fait leur mère, mais il y a une grande ambiguïté dans ces contrats d'obsèques. Voilà. Et c'est pas forcément extrêmement performant sur le plan financier. Donc, et on peut prélever jusqu'à 4 000 euros sur le compte du défunt pour payer les obsèques. Donc, je suis pas sûr que les contrats d'obsèques soient les choses les plus attractives et les plus intéressantes possibles. Je le dis en passant. Donc j'ai parlé des différentes questions voilà, mais c'était là, voilà. Et puis sur le plan financier, c'est pas forcément revalorisé. Et puis parfois, il y a des fichiers qui passent au travers. Mais ces contrats d'obsèques, c'est une modification assez forte de ce qui se passe. Et quand on interroge les gens toujours dans nos sondages là, on leur demande à l'avenir qui devrait prendre en charge le coût des obsèques. Et on a mis un item qui était un peu orienté en disant les enfants, parce que c'est normal de s'occuper des obsèques de ses parents. Eh ben, que croyez-vous qu'il arrive? Le premier item qui sort, c'est le défunt lui-même, car c'est parfois une défense très élevée pour les enfants. Ce n'est plus aux enfants de s'occuper des obsèques de leurs parents, mais c'est aux vieux de s'occuper de sa future mort. Et quelque part, c'est un renversement du mythe d'Antigone, dont on a parlé aussi, aussi cet après-midi, hein. Le devoir de sépulture, c'est quand même un geste fondateur de l'éthique. Ça fait partie, enfin, c'est ancré en nous. Et ben là, non, c'est au lieu de s'occuper de sa mort. Du coup, avant, on mourait et les autres s'occupaient des obsèques. Maintenant, on prévoit ses obsèques avant de mourir pour que les autres n'aient pas à s'en occuper. Et je dis parce que je pense que c'est important, c'est du coup, ce ne sont plus les conventions sociales qui définissent les obsèques, ni même les proches, pour qu'elles soient faites, mais c'est le défunt lui-même qui se projette dans sa propre mort. Mais dans ces conditions, les obsèques sont plus une aide pour les vivants sur le chemin du deuil, mais parfois une mise en scène par le futur mort de sa propre mort. Et en considérant pas ce renversement, ben on comprend pas ce qui peut se passer avec la crémation, avec les conflits qu'on peut voir au moment de la réalisation des obsèques. Et on a un schéma temporel qui est complètement bouleversé. Alors il y a un certain nombre d'auteurs qui travaillent autour de la mort qui imaginent un continuum entre le temps du mourir, le temps des obsèques et le temps du deuil. Je pense et je dis qu'il n'y a pas de continuum. Tout simplement parce que le sujet de ces trois temps-là sont les sujets de ces trois temps-là sont trois sujets complètement différents. Le sujet du temps du mourir, mais c'est le futur mort. Le sujet du temps des obsèques, c'est le corps social. Et le temps du deuil concerne les endeuillés individuellement dans un cheminement très personnel. Donc, quand on a une interférence entre le futur mort et ses propres obsèques, ou le futur mort et le temps du deuil pour ses proches, il y a problème. Exemple, le futur mort qui décide que ses obsèques, il n'y aura ni fleurs ni couronnes, qu'il y aura interdiction qu'il y ait des gestes religieux, ou qui souhaitera une crémation alors que la famille ne veut pas, ou qui, etc. Ou qui interdit à certains de ses proches de venir. Enfin, il y a plein de choses hein, qui peuvent se passer. Il n'est plus là, hein, ça ne le concerne pas. Mais il a imposé un certain nombre de choses à ses proches pendant les obsèques. Ou il imposera par exemple une dispersion des cendres, alors que il meurt plutôt jeune, ses proches ont besoin viscéralement de traces, etc. Et donc il va influer sur le deuil de ses proches. Du coup, c'est une modification qui est d'un schéma qui était vraiment ancestral. Et donc l'émergence de la crémation au détriment de l'inhumation, c'est pas simplement la substitution d'un procédé, hein, mais c'est un bref bouleversement. Et c'est exactement parallèle et concomitant, mais avec c'est la même symbolique, que la question de la crémation, enfin des contrats d'obsèques. Et c'est la première fois que tout ce schéma-là est bouleversé et on ne sait pas forcément bien le gérer. Quatrième bouleversement, le contexte religieux. Alors, en France, on est le pays de la plus grande diversité culturelle. On a avec des communautés diverses. Et on a une évolution extrêmement forte, notamment des croyances et de la pratique. On a quelque chose qui est assez spectaculaire. C'est on s'aperçoit que là, donc on a, si on répartit, alors ça dépend des questions qu'on pose, hein. Si on demande aux gens s'ils sont croyants, pas croyants, enfin, s'ils sont athées ou non croyants, en général, on a 40%. Si on leur demande s'ils sont croyants ou s'ils sont pratiquants, on a en général une quinzaine de pourcents de gens qui se déclarent pratiquants et une quarantaine de pourcents qui se déclarent croyants mais non pratiquants. Là, la question est un peu différente. Donc, c'est l'Observatoire Sociovision 2014-2015 qui a posé la question de l'appartenance, enfin, la religion d'appartenance ou de référence. Donc, c'est plus culturel. Donc, on s'aperçoit que les catholiques est naturellement en premier en France, les musulmans, etc. Là, c'est l'appartenance. Maintenant, si on regarde la pratique religieuse, on s'aperçoit que dans la population musulmane, par exemple, on a 48% de pratiques. On a 48%, alors là, je sais plus, le blablabla. Enfin bref, on arrive au fait qu'actuellement, on a un tiers des pratiquants d'une religion qui sont musulmans en France. Hein, ce sont des bouleversements quand on parle des besoins en lieu de culte, etc. Ce sont des vrais bouleversements. Et puis, alors là, on le voit beaucoup en région parisienne, et on a eu une étude qui a été extrêmement intéressante, qui a été menée dans le cadre de la Fondation sur les migrants, enfin l'anticipation de leur mort par les migrants en région Île-de-France, où on s'aperçoit que on n'a jamais vu cohabiter dans un même lieu, avec une même législation, des mêmes règles sociales, des personnes qui ont un rapport si différent à la mort. Entre des bouddhistes, des hindouistes, des musulmans, des sikhs, des évangélistes de toutes sortes de différentes, etc. Voilà, et c'est ce que je disais, hein, quand on se retrouve athée ou non-croyant, on se retrouve à 39%, et 17% de gens qui se déclarent pratiquants, on est loin de là, hein, on est plutôt aux alentours de moins de 10%. Mais. Alors c'est une vraie question parce que la religion, enfin la magie puis la religion ont réglé la question des funérailles depuis la nuit des temps. Et la mort, on savait, elle arrivait par la. Enfin, il y avait une responsabilité divine dans la mort. C'était la frontière entre l'ici-bas et l'au-delà. Et il y avait un au-delà, donc une perspective. Et il y avait un cadre rituel qui était fixé par les religions. Avec des lieux aussi pour les réaliser. Quand on a des gens qui sont non-croyants, quand on a des familles multiculturelles ou culturelles, dont le plus petit commun dénominateur, mais c'est une cérémonie civile, où le faire? Quels officiants? Les Français sont attachés à une religion, hein, 75% souhaiteraient une cérémonie. D'ailleurs, la moitié d'entre eux, une cérémonie religieuse. Et donc. Devant tous ces bouleversements, nous, on a, en tant que professionnels du funéraire, une vision de la laïcité qui est un peu particulière. Les gens sont au moment de la mort d'un proche, ils sont dans une situation de déstabilisation. Donc, ils ont besoin de se rattacher à des racines, à quelque chose. Et la religion, c'est une racine. Donc, on est là pour favoriser le geste religieux si on est. En tant qu'entreprise publique, patron d'une entreprise publique, je dis, on est là pour favoriser les gestes religieux quand ça a du sens pour les gens. Donc on investit systématiquement sur le religieux. On s'ouvre à toutes les religions, parce que justement, on a en face de nous une diversité absolument extraordinaire. On noue des partenariats pour bien comprendre, pour bien faire notre métier. On noue des partenariats avec des communautés pour comprendre quels sont leurs besoins, etc. Et là, je mettais un Bouddha, mais au Père Lachaise, par exemple, on a beaucoup de bouddhistes qui viennent, et on a deux Bouddhas, un en pierre, un en bois, qui ne sont pas des Bouddhas, ne sont pas des objets, hein, c'est des simples objets. Ils ont passé chacun près d'un an dans une pagode. Ils ont été amenés, ils nous ont été donnés à la suite de façon très ritualisée par des moines bouddhistes. Et chez nous, les maîtres de cérémonie les posent toujours en haut, parce qu'un Bouddha, ça doit jamais être par terre, jamais être en bas, etc. On respecte les gens qui viennent pour accomplir un geste religieux. Saisir les nuances, hein, on a parfois des choses extrêmement différentes entre des juifs libéraux qui veulent choisir la crémation pour qui c'est super compliqué, qui éventuellement vont dire le kaddish, trouver un rabbin qui va dire le kaddish, mais à l'extérieur du crématorium parce qu'il ne veut pas rentrer à l'intérieur, etc. Enfin, faut arriver à jouer avec ça quand on a des orthodoxes qui veulent être rapatriés en Israël, en tout cas, aller terminer en Israël. Donc, il faut jouer tout ça. Et puis, on a toute une partie de la population pour qui la cérémonie religieuse ou n'a pas de sens, ou ne convient pas à tout le monde, ou etc. Et en subsidiarité, on se doit de proposer quelque chose, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'on n'a pas besoin de rituels. Et donc on arrive à la problématique des cérémonies civiles, je parle bien de cérémonies civiles et pas républicaines, puisqu'on en a parlé. Et avant, se poser la question, mais ça sert à quoi les rites funéraires? C'est-à-dire, qu'est-ce que, si on fait une cérémonie, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir? Et je pense que si on observe ce qui se passe dans à peu près toutes les civilisations, on a un certain nombre de points communs. Ces points communs, c'est d'abord d'assigner une place physique au cadavre. On va l'enterrer, le brûler, le livrer aux vautours comme les Parsis. On va protéger la société physiquement de la pourriture du cadavre. Deuxièmement, on va lui attribuer une place symbolique. très présent dans les civilisations africaines et orientales. Mais je parlais de la crémation tout à l'heure. Un des rôles essentiels de nos maîtres de cérémonie, lorsqu'il y a une cérémonie civile, ça va être de faire passer symboliquement ce qui était un corps, enfin ce que au cours de la cérémonie, on a un cercueil. Cercueil dans lequel on vient de mettre un défunt qui est encore présent pour l'assistance. Et dans 2 heures, ce défunt, on va plus en retrouver que 4% dans un petit pot. Eh bien, le rôle du maître de cérémonie, ça va être de participer à faire ce passage symbolique du défunt vers les cendres de crémation, qui, si c'est bien fait, auront autant de valeur en tant que reste mortel que n'en avait un cercueil. Ça demande un petit peu de professionnalisme. Ensuite, bah oui, si c'est bien fait, par exemple, une chose qui est basique, mais dans un crématorium, il faut, pendant la cérémonie, avoir une covisibilité du cercueil et de l'urne. Et si on conçoit un crémat, enfin, si vous avez, il y a des élus locaux qui conçoivent un crématorium, etc., bah, il faut une niche, un endroit qui est fait pour mettre l'urne, de la même façon qu'il y a un endroit qui est fait pour mettre le cercueil, de telle façon à ce qu'on puisse le faire ça. Ensuite, il y a, donc, à la tribu une place symbolique. Ensuite, le défunt n'appartenait pas qu'à ses enfants, son épouse, son etc., mais il faisait partie de beaucoup de liens sociaux. C'était le membre d'une association, c'était le membre d'un parti, c'était etc. Donc, ben, on va contribuer la cérémonie d'obsèques rétablit l'ordre social qui est perturbé par la mort d'un proche. Et ça, les francs-maçons font ça de façon très extraordinairement, enfin très forte symboliquement. C'est-à-dire que quand ils ont des cérémonies, des tenues funèbres, eh bien, ils referment la chaîne symboliquement. Ils referment à la fin, ils referment la chaîne qui a été rompue par la disparition d'un proche. Et enfin, c'est le dernier moment, la cérémonie d'obsèques, c'est le dernier moment solidaire, avec un cheminement extrêmement solitaire dans le deuil, dans notre monde moderne. Donc, et ben, ce moment-là, il faut qu'il soit suffisamment investi pour aider à ce que ce cheminement parte le mieux possible ou le moins mal possible. Voilà. Et ça, ce sont des fondamentaux, je pense qu'on peut retrouver à peu près tout le temps. Quand il s'agit d'une cérémonie religieuse, il y a une autre dimension, naturellement, qui ne concerne pas les cérémonies civiles, mais qui va consister à s'occuper de l'âme du défunt. Qu'est-ce qui va devenir après la mort? Donc, je disais, c'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'on n'a pas besoin de rites. Les Français ne savent absolument pas ce que c'est qu'une cérémonie civile en général. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien qui le dit, il n'y a pas. Enfin, mais je connais pas d'études théoriques, de guides, etc., qui permettent de faire des cérémonies civiles facilement. C'est Comte Sponville qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'esprit de l'athéisme, qui montre parfaitement que on peut avoir une spiritualité sans Dieu, hein, qu'on peut faire Mais il y a bien donc un esprit de l'athéisme, mais où sont les officiants de l'athéisme? Et où sont les lieux de célébration de l'athéisme? En France, il n'y en a pas. Et donc c'est pour ça que, alors sauf dans les crématoriums, où il y a l'obligation qu'il y ait une salle de cérémonie. Question des officiants, ça c'est un autre problème. Et dans tous les cas, quand les gens choisissent l'inhumation et qu'ils ne sont pas croyants, ils n'ont droit le plus souvent à rien. Éventuellement, un chauffeur amélioré qui va mettre un petit coup de musique d'ascenseur et puis qui va dire, Monsieur, dame, on va se recueillir avant de. Voilà. Non mais. Voilà. Donc, il y a vraiment une très forte inégalité, en tout cas, entre les croyants, les pas croyants, et parmi les pas croyants, entre ceux qui vont choisir la crémation, qui auront au moins un lieu, et parfois quelqu'un qui va faire quelque chose, et puis ceux qui choisissent l'inhumation, qui auront le plus souvent rien du tout. Le direct, hôpital, cimetière. Et alors, là, ce sont des chiffres parisiens que je vais vous donner. Donc, hein, je précise bien, jusqu'à présent, on était national, c'est des parisiens. Au Père-Lachaise, dans 66% des cas, il n'y aura aucun geste religieux. Il n'y aura eu aucun geste religieux au départ de l'hôpital, de la chambre mortuaire, etc. Il n'y aura eu aucun geste religieux au crématorium. Il n'y aura eu aucun geste religieux, éventuellement, pour la dispersion des cendres, etc. À Champigny, donc, il y a un autre crématorium Congers qui est en banlieue, hein, etc. C'est 60%. Donc, ce n'est pas marginal. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, on a une obligation de réponse en tant que professionnel du funéraire, parce qu'on a une vraie demande. Parce que les gens, sinon, je vous dis, ils sont sidérés. Quand on part de l'hôpital, un petit coup de corbillard, et puis hein, par une journée bien froide de novembre et pluvieuse, c'est assez dramatique. Et alors ça expérimente tous azimuts. Il y a beaucoup de réflexions parce qu'il y a il y a cette demande, mais il n'y a aucune instance pour guider, encadrer la profession. Et l'improvisation, ben, c'est pas forcément facile parce qu'on joue, on joue quand on est un maître de cérémonie avec une assistance qui est en pleurs, avec quelqu'un qui est jeune, qui est mort, avec tout son entourage, etc. On joue sur les émotions de façon extraordinairement facile. Donc c'est pas le. Et donc il faut de la rigueur. Il faudrait qu'on ait des maîtres de cérémonie qui soient des maîtres de cérémonie qui soient vraiment formés, travailler sur le fond et la forme. C'est pas de l'improvisation, hein. Il y a souvent des familles qui sont culturellement à l'aise, qui se disent il faut faire quelque chose, donc ils inventent, etc. Mais d'abord, une cérémonie, pour que ça fonctionne, enfin, il faut être extérieur, hein. C'est pas et l'invention, ça suffit pas. C'est extrêmement facile de faire pleurer les gens. Donner du sens, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut du rituel et de la personnalisation dans un certain équilibre. Et là, c'est tout un professionnalisme. Alors, on peut, mais globalement, j'ai donné quelques grandes phases qu'on peut assigner à une cérémonie civile. D'abord, on va commencer tout bêtement par nommer le défunt. Et par exemple, quand il s'agit de la mort périnatale, quand un enfant n'a pas d'existence vis-à-vis des autres parce qu'il est mort à la naissance, le nommer, c'est déjà lui donner une existence, c'est éviter que l'enfant puis né éventuellement, on reporte sur lui l'enfant qui n'a pas existé. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être compliquées. Ensuite, on va le relier parce que il y a la famille proche qui va être devant, mais le petit monsieur qui est tout au bout là-bas et puis qui joue aux boules tous les jours avec lui, etc., il aura peut-être plus de peine que les proches qui sont devant. Donc, il faut arriver à saisir quels étaient les liens qu'il avait avec les gens qui sont dans l'assistance. Ensuite, on va l'évoquer. C'est souvent le rôle de la famille. C'est là où on peut passer des photos, on peut raconter ce qu'il était, on peut amener la bassine à confiture de la grand-mère, le panier à champignons du grand-père, enfin, etc. Là, on va faire monter l'émotion. Derrière, il va falloir donner sens. Ensuite, permettre à chacun de faire un adieu personnel en fonction de ses propres convictions. Organiser le départ du cercueil, une séparation. C'est souvent, je veux dire, c'est le cercueil qui doit nous quitter. C'est pas forcément les gens qui doivent quitter le cercueil. Dire le devenir des cendres, et là je dis c'est absolument essentiel, notamment quand il y a une cérémonie de crémation, parce que les cendres nommades, c'est pas comme un cercueil qu'on va mettre au cimetière. Savoir clore une cérémonie, et puis introduire le temps des condoléances, où les gens vont aller manger un café brioche, etc. Alors quand on parle de clés, il y a un certain nombre de clés que va pouvoir actionner le maître de cérémonie, c'est l'inscription dans la mémoire, hein, véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, etc. Enfin, il y a une ouverture sur un autre part. Cette autre part, c'est alors pour certains, ça peut être un autre part religieux. Pour d'autres, ça peut être un autre part symbolique. Hein, le bateau qui disparaît à l'horizon, la voile qui n'y est pas. Mais la voile est toujours là, mais on voit plus le bateau. Enfin, il y a plein de textes comme ça. Mais pour le plus rationaliste des rationalistes, l'idée que la personne qui est décédée, eh bien, tout ce qui, les molécules qui constituaient enfin, tout ce qui constituait son corps est réintégré dans la nature, hein, au travers de l'air, au travers des cendres qui vont être éventuellement dispersées, inhumées, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut actionner. L'inscription de la mort du défunt dans la grande histoire de l'humanité, c'est quand on a de la chance d'avoir des enfants qui rient, qui crient, qui chahutent un peu, c'est extraordinaire parce que c'est vrai que pour une personne qui meurt, il y a un enfant qui naît et c'est la grande continuité qu'on peut évoquer. Il y a le renvoi à notre propre mortalité. Si je suis mortel, je peux mieux accepter que l'autre soit mort. Voilà. Et on assigne une place au reste mortel. Donc il y a plein de choses. Après, ça se travaille, mais il y a plein de choses qui permettent de donner sens et de faire une vraie cérémonie, quand bien même on n'a pas de geste religieux. C'est tout simplement le respect qu'on a pour notre humanité et l'humanité de celui qui est parti. Après, il y a la question de la légitimité. Qui peut faire ça? Quand il y a une société publique, un maître des gens des maîtres de cérémonie qui font que ça dans un crématorium, qui sont dédiés, qui quelque part représentent la société avec un grand S, ça peut fonctionner plus ou moins en fonction de leur qualité. Dans de nombreuses villes, sont des sociétés privées qui ont parfaitement leur légitimité et qui travaillent très bien, mais je veux dire, est-ce que c'est le rôle d'un commerçant? C'est absolument pas péjoratif dans mon sens, mais de donner sens au sein d'une cérémonie dans laquelle c'est l'ensemble de la société qui accompagne le défunt. Alors, là, on est dans la crémation, ça va. Pour l'inhumation, pas de salle, pas d'officiant, le direct hôpital cimetière. Quand on se marie, même pour il peut y avoir des baptêmes républicains. Quand on se marie, enfin, quand les gens se marient, ils ont droit à la maison commune, au centre de la cité, etc. Quand les gens sont croyants, ça ne choque absolument personne que le cercueil soit porté au centre de la cité par des porteurs qui rentrent par la porte. Eh bien, imaginez, on parlait de la loi de, enfin, on parlait des décrets de enfin, non, c'est plus 76. Mais il y a un décret qui a fixé comment devait être fait un crématorium, et il est écrit que textuellement, le cercueil doit rentrer en position horizontale par les parties techniques. Théoriquement, la réglementation dit qu'on n'a pas le droit de rentrer un cercueil. Donc, voilà, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même qu'on se réapproprie ce que sont les funérailles pour les gens qui ne sont pas croyants, qu'il n'y ait pas cette inégalité majeure qui existe actuellement. En rappelant que les églises, elles ont été financées à leur création par la collectivité. La collectivité religieuse qui se convoitait avec la collectivité publique, et qu'elles sont toujours entretenues par la collectivité publique. Donc, voilà, les non-croyants, ils peuvent avoir mieux qu'une salle polyvalente à côté de là, entre la déchetterie et le machin. Et donc, globalement, on a un contexte de vraie révolution dans le domaine du funéraire. Donc, je disais, mutation profonde de la relation à la mort avec l'allongement de la durée de vie, les modifications des causes de la mort, etc. La perte des repas religieux. Une mort qui se décide de plus en plus, le taux de crémation qui augmente, et dans le même temps, personne ne s'en occupe. On a vraiment pour les politiques, hein, qui sont les politiques, ils ont besoin d'être élus, donc ils sont dans l'éros, hein, et le thanatos, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc ça amène chez les professionnels un rôle qui est complètement différent. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a une trentaine d'années, les professionnels du funéraire, c'était l'ordonnancement des convenances. On savait, je veux dire, qu'il y avait des schémas qui étaient parfaitement ancrés dans les têtes des gens. Même, enfin, il y avait les convois de première classe, deuxième classe, troisième classe. Enfin, je veux dire, il y avait l'affichage qui était obligatoire, il y avait tout ça, c'était comme ça. Maintenant, on n'a que des gens qui sont dans des situations complètement différentes. Et c'est vraiment un accompagnement dans la singularité des gens, et on est passé des pompes funèbres au service funéraire. Alors, donc, toutes ces mutations, maintenant, je vais revenir un petit peu sur le cimetière. C'est tout ce qui se passe avant le cimetière, et donc le cimetière moderne. Quelles sont les fonctions d'un cimetière? Il y a la fonction de réduction des corps, c'est un outil de réduction des corps, c'est un support individuel pour le deuil, avec des situations qui sont extrêmement différentes. Avec notamment des questions du deuil difficile, la mort périnatale. Hein, Gaël Clavandier va nous en parler demain matin, mais c'est la question, par exemple, des dons du corps. Juste une question, on a un axe qu'on finance dans le cadre de notre fondation sur la question du don du corps. En France, il y a 5 000 personnes chaque année, enfin 5 000 familles chaque année, qui sont dépossédées en moins de 24 heures de leur défunt. Le défunt ne voulait pas embarrasser ses proches. Il avait fait don de son corps à la science. Donc, il y a deux ambulanciers qui arrivent, qui l'emmènent sur un brancard. Et après, pot au noir total, il y a quel rituel, quel lieu de souvenir, qu'est-ce qui se passe, quel est le moment où c'est fini? C'est des questions qui sont absolument terribles pour les familles. Donc, par exemple, il y a les cimetières, servent à avoir, par exemple, des stèles sur des sortes de cénotaphes qui permettent aux gens de venir se recueillir dans un lieu, enfin, essayer de comprendre du sens. Après, on peut monter des cérémonies. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. La fonction du cimetière, est-ce que ça peut être un espace de cérémonie? Alors d'abord, on a les juifs, les musulmans, et c'est là-bas hein, qu'il se passe quelque chose. On s'arrête pas à la synagogue ou à la mosquée. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des climats qui sont pas forcément faciles? Ce sont aussi des lieux de mémoire collectif. Lieu de le cimetière, c'est un lieu de mémoire, un lieu dans lequel est la famille. C'est un lieu qui peut être chargé d'histoire. On parlait des QR codes, mais effectivement, il y a des tombes remarquables, etc. Il y a des endroits où, par exemple, on flash le QR code et on a l'histoire de la personne qui est là. Ça peut être quelque chose de formidable. C'est un lieu où il y a la, c'est la, la, c'est le lieu des morts. Ça peut être un lieu artistique. Il y a beaucoup d'artistes qui sont exprimés dans cela. On va le voir, ça peut être un facteur d'intégration pour certaines populations immigrées, paradoxalement. Et en ville, ça peut être des espaces de fraîcheur, des espaces de biodiversité, et la question de la connexion avec le tissu urbain. Si on regarde la législation actuelle sur les cimetières, ça a repris cet article-là, hein, qui date de Prairie à l'an 12, a quasiment pas changé. Pour éviter les dangers qu'entraîne, la rédaction initiale a un tout petit peu changé, hein, il n'y a plus pour éviter les dangers qu'entraîne, etc. Mais pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de 5 années en 5 années. En conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront 5 fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y disposer le nombre de morts d'une année. Donc en gros, le cimetière, d'après la loi, c'est un endroit où on transforme les défunts en nonos, qu'on va pouvoir mettre de côté. C'est exactement ça. Et c'est exactement la même fonction qu'un crématorium, simplement c'est plus lent. Ça, c'est la loi. Et le système de concession, ce n'est qu'un système facultatif. Les monuments, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et d'ailleurs, tout le monde a droit, et je le rappelle au maire, tout le monde a droit à avoir une sépulture gratuite dans n'importe quelle commune, quels que soient ses revenus. Donc, il y a d'autres procédés. La crémation, naturellement, dont on vient de parler. L'aquamation, c'est un système qui a été inventé en Écosse, mais maintenant qui est autorisé et qui fonctionne dans 5-7 États américains, dans certains États canadiens, dans lesquels sont des grosses cocottes minutes, dans lesquelles on met le défunt avec de la potasse et de la soude à 200 degrés, à peu près 200 litres de liquide. On met ça sous pression. Au bout de 2 heures, il y a une sorte de. Et je n'invente pas, c'était l'inventeur canadien du procédé qui, dans une conférence, disait c'est une sorte d'orange juice d'un côté et des ossements secs, comme à la suite d'une crémation, et qui peuvent être pulvérisés, c'est exactement comme les cendres. Ou la résommation, qui est un autre procédé qui a été inventé dans les pays du Nord. Qui n'est pas encore très développé, mais qui va sans doute l'être. Le défunt est congelé, desséché à froid. C'est la lyophilisation, hein, le Nescafé, c'est comme ça qu'on fait le Nescafé. À la suite de quoi, ben, il est tout. On le fait vibrer, on le met sur une table vibrante, et on obtient une sorte de poussière. On retire les prothèses, etc., qu'il y avait dedans, et ça sert d'engrais, etc. Donc, alors. Je sais pas. Réfléchissez, mais l'aquamation, qu'est-ce que c'est plus affreux que la crémation? Est-ce que c'est plus affreux que de pourrir sous des tonnes de terre? Voilà, c'est une question d'imaginaire, mais en tout cas, le cimetière, si on raisonne dans sa fonction première et dans sa fonction légale, qui est la réduction des corps, il a plein de concurrents dans la crémation. Alors, donc. On a toujours beaucoup de gens qui vont à la Toussaint, mais ça, c'est plus souvent une petite tradition familiale, etc. On a quand même de moins de gens qui vont au cimetière pour vraiment se recueillir. Hein, mais en revanche, en cas de mort traumatique, le fait d'avoir un lieu, d'avoir un objet transactionnel qu'est la tombe, ça, c'est extrêmement important. Je vous disais, il y a des espaces particuliers pour un certain nombre de choses, le jardin de souvenirs, les espaces cinéraires, etc. Alors, carré confessionnel, ghetto ou facteur d'intégration. On a parlé des carrés confessionnels. Carré confessionnel, c'est une aberration par rapport au système de laïcité. Parce que c'est un endroit où on regroupe des gens de la même religion, et qui décide d'ailleurs de qui y va, comment, etc. Et je vais juste vous faire une visite du cimetière de Thiès, dont on a parlé, qui est un cimetière qui fait un peu plus d'une centaine d'hectares, au sud de Paris, qui appartient à la ville de Paris. Donc c'est un cimetière extramuros, dans lequel, dès le départ, vers 1930, on a eu des carrés confessionnels. Alors, il y a des carreaux, il y a des carrés asiatiques, il y a des carrés orthodoxes, il y a des carrés arméniens, il y a des carrés juifs, il y a des carrés musulmans, etc. Les carrés musulmans qui m'intéressent là. On prend un carré musulman tel qu'il existait dans les années 70. Donc on voit, hein, tumulus, etc., quelques insignes de remarque, c'est un petit peu ton beau désert. Là, on est à l'automne, donc il n'y a pas d'herbe, mais en été, il y a des herbes folles un peu partout. On arrive dans les années 80, là on voit quand même quelques encadrements, quelques stèles en forme de minaret, etc. On arrive dans les années 90, et là on commence à voir des tombes qui ressemblent à des choses qu'on connaît. Et là vous voyez des fleurs. Et là, vous voyez un médaillon avec le visage du défunt. Hein? Et puis, je continue. Voilà, à partir des années 2000, franchement, si ce n'est un peu la forme de la stèle, est-ce que vous faites une différence entre un cimetière catholique, enfin un carré catholique à côté ou des terrains et pas beaucoup. Et vous allez là-bas le jour de la Toussaint, et vous voyez les musulmans venir en famille avec des fleurs. Leur petit arrosoir, la petite brosse pour nettoyer la sépulture. Et donc, on se trouve devant une équation qui est assez simple. Si on n'a pas de carré confessionnel, c'est un rapatriement dans les pays d'origine. Et les pays du Maghreb, par exemple, financent le rapatriement. La Tunisie finance quasiment totalement le rapatriement. L'Algérie y participe fortement. Et le Maroc s'y est mis également. Parce que c'est naturellement, ce sont des liens qui sont importants, ça ramène des voyages, du financement, etc. Donc, si on ne met pas en place des carrés, comment dire, des carrés musulmans, il y a du rapatriement. Or, vous avez vu les photos tout à l'heure. Je veux dire, d'abord symboliquement, inhumer son parent dans la terre d'immigration, c'est s'enraciner au sens propre du terme, hein, et c'est adopter un certain nombre de coutumes. Donc, c'est de l'intégration. Donc, ce qui peut apparaître comme un ghetto. Et ben ça peut être un facteur d'intégration. En tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir sur le sujet. Voilà, c'est pour ça. Hein. Donc je passe rapidement sur la loi de 1905, dont on retient souvent que l'article 2, qui est extrêmement négatif, en oubliant que la République assure la liberté de conscience, hein, qui est l'article 1, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions dans l'intérêt de l'ordre public. Est-ce que ça pose une restriction que de faire un carré musulman à l'ordre public que de faire un carré musulman? Pas forcément. Donc, je passe sur cette question de la laïcité, mais je pense que ça fait partie des sujets qui sont intéressants. Après, le cimetière, ça peut être un espace écologique dans le tissu urbain. C'est un endroit où il y a les sols perméables, on abandonne les produits phytosanitaires, etc. Et alors, je vous montre une photo, toujours, je reviens sur Paris, mais j'ai plus d'iconographie. Vous voyez? Là, c'est les gradients de température, hein, en été. Eh ben, vous voyez, ça, c'est le cimetière du Père-Lachaise. Et le cimetière du Père-Lachaise, c'est un îlot de fraîcheur, hein, au milieu de tout ça. Le cimetière de Thiers, auquel je reviens, cimetière complètement entouré, urbain. Les petits renardeaux qui sont poussés là-bas, c'est un fossoyeur qui a pris les photos. Après, sur la conception même du cimetière. Donc, c'est peut-être difficile à comprendre, mais je vais y aller. On regarde d'abord un cimetière, sa trame classique avec son mur autour. D'abord, rien n'empêche que le mur soit plein. Le mur, qui est souvent un obstacle dire, c'est beau un cimetière, souvent, etc. C'est beau, et puis il y a un grand mur, et on est bloqué, etc. Rien n'empêche d'avoir des grilles, de temps en temps, ou même continue, pour permettre de voir le cimetière, et de voir toute la verdure qu'il y a derrière. Donc, il peut y avoir une connexion avec le tissu urbain. Deuxièmement, on raisonne sur les sols, les voiries et les sols. Ben, les voiries et les sols, c'est pas forcément goudronné, c'est pas forcément imperméable, etc. Mais on peut ramener du verre, etc. Troisièmement, souvent, il n'y a pas beaucoup de plantations, etc. On peut planter beaucoup pour avoir quelque chose. Et globalement, quand on regarde, entre le cimetière tout à fait classique, traditionnel, etc., et puis ce qu'on peut obtenir, on a exactement le même nombre de sépultures, avec une ambiance qui est complètement différente. Donc le cimetière, c'est aussi un lieu de vie. Alors, n'oublions pas maintenant, je débouche juste comme ça, une petite piste sur la question du jardin, des cimetières virtuels, autres concurrents des cimetières, hein, avec des gens naturellement qui permettent qu'on dépose des fleurs, des bougies symboliques. Hein, on paye à chaque fois. Hein, ça existe. Alors, que ce soit pour les humains, hop, ou pour les chiens, hein, puisque c'est le. Voilà. Et donc, globalement, et je conclue là, le cimetière de demain, sans doute moins fréquenté par les familles en deuil, ça c'est très clairement. mais encore plus utile pour certains deuils particuliers. Donc il faut savoir détecter ses besoins pour pouvoir y répondre. À la campagne, c'est certainement un élément patrimonial et historique. Je pense que vous ne me direz pas le contraire. Et en ville, eh bien, c'est entre espace vert, lieu calme, respiration pour les habitants, si il est connecté par le tissu urbain. Je termine en rappelant juste que j'ai parlé tout à l'heure de fondation, mais on a une fondation qui s'appelle la Fondation Services Funéraires Ville de Paris, qui est sous égide de la Fondation de France. On finance chaque année, on aide quelques associations, mais surtout on finance de la recherche. Comme il y a beaucoup d'universitaires ici, je le dis. On finance de la recherche sur des axes qui sont déterminés. Il y a un axe qui est la mort périnatale, sur lequel avec qui on a travaillé notamment avec Gaël, mais on continue encore. On a un axe qui est sur les rites funéraires, un axe sur et un axe sur écologie et pratiques funéraires, parce que les pratiques funéraires ont un impact sur l'environnement. Or, il n'y a aucune étude là-dessus. Et puis, on a travaillé beaucoup sur la question des morts sans corps, mais que c'est un acte qui est en voie d'extinction parce que ce sont des deuils particuliers qu'il faut savoir gérer. Et donc, c'est fini. Je peux te dépasser.
Un tout petit peu, mais c'est parfait.
Ouais.